Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold on, everybody. Here it comes.
Forger son mental, avoir un gros mental, c'est dans la tête, j'ai fini au mental. Ou au contraire, j'ai explosé dans la tête. J'avais les jambes mais j'avais pas la tête. Vous avez déjà entendu ces phrases? Peut-être les avez-vous déjà prononcées vous-même. Le mental, on en parle beaucoup, mais comment le définir? Est-il possible de le définir? Dans cette série audio, je vous emmène à la rencontre d'athlètes d'ultra-endurance et de leur mental. Je suis Richard Delhomme, journaliste, coach et athlète. Bienvenue dans Les Mauvais Élèves, le podcast de l'ultra-performance mentale. Aujourd'hui, je reviens au vélo, au bikepacking, à l'ultra et pas avec n'importe qui. Oh, vous le connaissez bien maintenant si vous suivez le podcast depuis 4 ans. Aujourd'hui, c'est le 9e épisode que je fais avec le boss des boss, le Yoda de l'ultra, le Zidane du bikepacking, Sofiane Sehili. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Sofiane, je vous laisse découvrir par vous-même, notamment sur sa chaîne YouTube qui ressemble davantage à une masterclass sur le bikepacking, notamment les films sur la Silk Road Mountain Race. Et sans plus attendre, Sofiane Sehili.
La bataille de la guerre. Si el dragón es dos quimeras.
Sofiane, où commence le mental? À quel moment il commence le mental? Est-ce qu'on doit attendre d'être dans le mal, dans une grosse galère, au fin fond de la nuit, dans un fossé en Norvège, pour commencer à se demander ce qu'est le mental et à quoi ça peut servir, ou est-ce que ça commence bien avant?
Ça commence avant tout, quoi. Ça commence au moment où on s'inscrit quasiment, quoi. Parce que si on n'a pas, si déjà dans la tronche, on n'y est pas, on s'inscrit même pas. Et après, ça nous accompagne dans tous les moments, c'est déterminant dans tous les moments. Après, à quel moment ça devient prégnant? Ouais, c'est quand ça devient très 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 dur. C'est là, c'est au moment où on doit aller chercher dans les ressources les plus profondément enfouies que le mental fait la différence. Mais il est là tout le temps, quoi. Il est là tout le temps parce que dès le premier kilomètre, s'il n'y a pas la volonté d'avancer, il n'y a pas un coup de pédale qui se fait, quoi. Donc, il y a toujours, peu importe le niveau auquel on est, il y a toujours une forme de difficulté dès que la course commence, dès qu'on se lance, que ce soit la pression qu'on se met parce qu'on arrive sur un événement pour le réussir. Après, chacun ses critères de réussite, ou que ce soit simplement de tenir le rythme qu'on a décidé de tenir. Et ça, il y a pas besoin d'être un champion. On se met tous un défi, on se met tous une barre à une certaine hauteur. Et pour réussir à atteindre cette hauteur, on est forcément obligé de mobiliser des ressources mentales qui sont au-delà de ce qu'on mobilise dans notre vie de tous les jours.
Est-ce que ça commence aussi au moment de l'inscription, mais aussi quand tu vas rouler, quand tu prépares ton matériel, quand tu te demandes ce que tu peux faire pour être un petit peu meilleur? Est-ce que ça se passe uniquement dans les jambes? Est-ce que il y a des trucs que tu vas faire qui sont là uniquement pour renforcer un petit peu cet aspect mental, commencer à préparer des outils que tu vas ressortir justement quand c'est difficile?
Je ne sais pas dans quelle mesure on peut réussir vraiment à influer de manière consciente sur la résilience dont on est capable de faire preuve et à quel point on peut finalement aller chercher ces ressources mentales. Je pense que c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure. Mais ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé, comment devenir meilleur. En ultra, on peut évidemment devenir meilleur en s'entraînant physiquement. Après, comment s'entraîner mentalement, comment apprendre à endurer, comment apprendre à souffrir sans abandonner. Est-ce qu'on peut réussir à faire ça en dehors de toute compétition? Est-ce qu'on fait ça en entraînement? Quelque part, oui, mais je pense que pour franchir vraiment le palier qui va séparer peut-être la masse de l'élite en termes de mental, les ressources les plus difficiles à aller chercher, c'est uniquement en course. Je trouve qu'on est vraiment capable de les mobiliser. Si on regarde ce qu'on est capable de faire en entraînement, moi j'ai évidemment, avant de me lancer dans la compétition, j'ai essayé d'appréhender de la meilleure manière possible ce que ça pouvait être que de participer à une ultra. Et j'ai donc, par exemple, roulé pendant 24 heures d'affilée, passé une nuit sur le vélo pour voir comment réagissait mon corps, comment réagissait mon esprit. Évidemment, c'est des choses qui sont possibles, mais après, la vérité d'une course, c'est que ces sessions de privation de sommeil, elles sont bien plus intenses. On va se retrouver, après avoir fait ces 24 heures, 36 heures à rouler, à se reposer peut-être pendant seulement 2 heures, 4 heures. Ça, je ne sais pas si c'est des choses qu'on est vraiment capable de reproduire en entraînement, en préparation. Je ne sais même pas s'il est souhaitable de le reproduire. Donc, comment progresser mentalement en dehors du cadre de la compétition, je pense que c'est quelque chose qui est difficile.
Donc ça signifie que c'est aussi une grosse question d'expérience, que c'est avant tout l'expérience de ces situations pénibles qui font qu'on apprend à chaque fois quelque chose et qu'on est un petit peu meilleur.
Je pense que c'est une expérience aussi de vie. Je pense que il y a évidemment, au fur et à mesure qu'on se frotte à cette discipline et qu'on progresse dans l'ultra, on franchit des paliers, on apprend à supporter des choses qu'on pensait insupportables auparavant. Mais il y a aussi, à partir du moment où on aborde cette discipline, on va mobiliser toute l'expérience qu'on a acquis auparavant. Qui peut venir de la manière dont on s'est entraîné, mais qui peut venir de choses qui sont totalement différentes. Je prends un exemple qui ne me concerne pas, mais imaginons quelqu'un par exemple qui a fait des classes préparatoires aux grandes écoles et qui se retrouve à être propulsé comme ça dans un univers comme celui de l'ultra, c'est quelqu'un qui va pouvoir aller chercher dans ses expériences de classes qui sont extrêmement sélectives, qui demandent d'acquérir une capacité de travail supérieure. C'est quelqu'un qui va aller pouvoir chercher dans cette expérience qu'il a vécue pendant 2 ans, 3 ans. Pour réussir à transférer finalement cette résilience qu'il a acquise dans le cadre de ses études dans un cadre qui est celui de l'ultra, parce que finalement c'est les difficultés de la vie qui nous endurcissent. Après on se spécialise, j'ai envie de dire, on peut être quelqu'un de mentalement fort, et puis après quand on se lance dans l'ultra, qu'on acquiert cette expérience, on va se spécialiser dans le sens où on va apprendre à résister à des températures extrêmes, des longues périodes avec des extrémités engourdies ou des pieds mouillés, évidemment des longues sessions de privation de sommeil. Ça c'est des choses, après voilà, qui c'est des problématiques qui vont être particulières et spécifiques à l'ultra, et donc c'est là qu'on va se spécialiser et acquérir une forme d'expertise mentale pour être capable de supporter ces épreuves-là et pratiquement les normaliser. Mais le bagage qu'on acquiert avant de se lancer dans cette discipline a évidemment une importance capitale.
Et toi, justement, ta zone d'inconfort, elle commence où ? À partir de quel niveau de condition ou quelle ambiance, quelle condition de course, quel style de course te mettrait dans une situation d'inconfort ?
La première réponse qui me vient vraiment à l'esprit, moi, la chose qui me vraiment me met le doute et qui est capable de me ralentir bien plus que le reste, c'est le vent. J'ai beaucoup beaucoup de mal avec le vent. J'ai beaucoup de mal avec le fait que c'est quelque chose qui me semble particulièrement injuste, dans la mesure où le vent, c'est quelque chose qui peut être absent ou présent. C'est quelque chose qui peut être aussi absent, qui peut être présent pour soi et qui peut être absent pour ceux qui suivent. C'est quelque chose qui peut durer pendant un jour, deux jours. Qui peut durer vraiment pendant littéralement des centaines de kilomètres, et je le sais pour en avoir fait l'expérience. Et il y a quelque chose du domaine de presque un sentiment de la nature en elle-même qui s'acharne contre soi en tant qu'individu et qui s'érige en disant non, je ne veux pas que tu ailles dans ce sens-là. Et oui, qui participe à créer vraiment un réel sentiment d'injustice. Et un vent de face ou un fort vent de côté à cette particularité, voilà, contrairement à la nuit, contrairement à la pluie, c'est quand même très très rare qu'il pleuve pendant deux jours d'affilée. Je dis pas que c'est impossible, hein, évidemment que ça peut arriver, mais moi je me suis vraiment jamais retrouvé dans des situations où j'ai eu des conditions d'adversité qui ont duré aussi longtemps que du vent. Et du vent, ouais, c'est ça, c'est ce qui rend fou aussi, c'est qu'on se dit que si on fait demi-tour, c'est notre ami, quoi.
Bon, au niveau du matériel, ta parade sur la cile, que ça a été les prolongateurs. On en avait déjà parlé tous les deux, et il y a même des chances, on peut aussi dire que ça t'a largement aidé à en tout cas, ça a contribué à ta victoire. Quand tu te retrouves justement dans cette situation de silk avec des longues lignes droites, vent de face, qu'est-ce que tu te dis ? Tes pensées un peu négatives, c'était quoi ?
C'est vraiment une situation, alors je pense pas forcément à la silk, parce que la silk, on a eu un ou deux jours où on a vraiment souffert de vents défavorables. Mais il se trouve que le Kirghizistan, même si ça peut être particulièrement hostile en termes de météo et notamment en termes de vents défavorables, comparé au Tour Divide, c'est vraiment rien du tout, quoi. Le Tour Divide, ça peut rendre complètement fou, dans le sens où, oui, voilà, on parle de plusieurs jours d'affilée avec du vent de face fort qui ralentit d'une manière drastique, quoi. C'est compliqué dans ces cas-là. Ce qu'on se dit, oui, on est forcément dans une négativité. On est forcément en train de guetter éventuellement un moment où le cap peut éventuellement changer un petit peu, même si aux États-Unis, on sait que ces lignes droites peuvent durer des centaines et des centaines de kilomètres. On n'a pas forcément l'espoir que le cap change. On peut parfois essayer d'espérer que la végétation va changer et que des forêts vont venir nous protéger, mais quand on est dans le désert du Wyoming, on sait très bien que ça ne va pas arriver. Non, c'est évidemment des pensées négatives qui nous envahissent. Moi, je me retrouve, quand je dis que ça me ralentit, c'est que ça, évidemment, ça ralentit tout le monde, mais je pense que ça me ralentit plus Peut-être que d'autres personnes qui le supportent mieux, parce que je ressens vraiment des besoins impérieux de m'arrêter, de faire des pauses. Ne serait-ce que le bruit du vent aussi, c'est quelque chose qui mine complètement, parce que ça et la spécificité du vent en plus, c'est que si à un moment il nous prend l'envie de se dire qu'on va lutter contre et qu'on va appuyer plus fort sur les pédales, bah finalement on va faire que le rapport qui va exister entre la puissance qu'on va produire et la vitesse à laquelle on va aller va être complètement disproportionné, parce qu'en appuyant très fort sur les pédales, on va juste continuer à augmenter la résistance que le vent exerce contre nous, et donc ça peut même pas être une solution, quoi. Donc on se sent vraiment complètement désarmé, je trouve, par rapport à des conditions de vent défavorables comme ça.
Et à quoi tu penses alors pour essayer de passer outre ces moments où tu as envie de t'arrêter ? C'est impérieux, mais est-ce que tu t'arrêtes ? Et comment tu te mobilises ? Qu'est-ce que tu te dis ? À quoi tu fais appel ? À quelles ressources tu fais appel justement dans ces moments-là pour continuer, pour pas t'arrêter ?
Alors oui, je m'arrête. Je m'arrête plus souvent, c'est quelque chose qui va m'arrêter beaucoup plus qu'une envie de dormir, beaucoup plus que le froid, beaucoup plus que la pluie. Vraiment, le vent, c'est les conditions météo qui vont faire que je vais faire davantage de pauses. Et après, ce que je me dis, c'est ce que je me dis comme pour toutes les difficultés, c'est que c'est comme ça. Il y a pas le choix. J'ai pas le choix de faire demi-tour ou la possibilité de faire tomber le vent et qu'il faut parfois il y a une forme aussi d'aveuglement, hein, de se dire là peut-être que le vent il est un petit peu moins fort qu'une heure avant, peut-être que là il va bientôt tomber, parce que je sais pas, ça dépend de l'heure qu'il est. Est-ce que quand il commence à être 17h, qu'on sait que le coucher de soleil est pas très loin, on peut parfois se bercer de l'illusion que quand la nuit va tomber, le vent va tomber avec elle. Et après, quand je suis dans une configuration Tour Divide par exemple, où je suis dans le Wyoming et je connais parfaitement le terrain pour y être venu plusieurs fois, je compte les kilomètres, hein. Je compte juste les kilomètres et je me dis, allez, encore 150, encore 100, encore 50. Et je sais que, voyez, à un moment, il va y avoir une végétation qui va changer, qu'on va sortir du désert, qu'on va arriver dans les forêts du Colorado. Et que donc, même si le vent ne tombe pas, on sera un peu plus abrité et la progression sera plus facile. Après, là où on est, parfois heureux, c'est quand on ne sait pas combien de temps ça va durer. En l'occurrence, sur le Tour Divide 2022, honnêtement, je pense que ça a bien duré 3 jours. 3 jours à se battre tous les jours contre le vent. Il faut vraiment pas dans ces cas-là, je pense. Penser au fait que ça va être toute la journée ou au fait que ça va être 150 bornes. Il faut vraiment juste se concentrer sur les coups de pédale à l'avenir et puis voilà, petit à petit on avance. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas d'autre choix que d'avancer. Je veux dire, moi, je suis en mission. Quand j'étais sur ce Tour Divide ou quand j'étais sur la Silk Road, je suis en mission pour gagner. Donc, à partir de là, peut-être c'était aussi plus simple quand j'étais dans ces conditions-là, parce que je parvenais à me dire que voilà, si par exemple sur le Tour d'Ivoire il y avait 2-3 jours de vent, c'était pas que pour ma gueule, quoi. Ça, c'était tout le monde qui allait le prendre, c'était tout le monde qui allait ralentir, et ça faisait partie de les cartes qu'on a tirées. C'est les cartes qu'on a tirées et c'est le jeu qu'on a et on doit jouer avec ces cartes-là. Donc, c'est pas comme si on avait le choix, quoi.
Et sur les courses où tu arrives avec un petit peu moins de sens de la mission, Ça se passe comment?
Parce
que là, ce qui te sauve finalement, c'est de te raccrocher, bon, bah, certes, à des idées positives, à ta connaissance du terrain, ouais, ouais. En sachant qu'à un moment donné, ça va changer, que le Colorado ou toute autre contrée va arriver, que le vent va tourner, tomber, ou que la végétation va te protéger. Donc, tu te raccroches à un truc positif et aussi à ta mission en cours. Mais quand t'as pas tout ça, quand tu sais pas où tu vas et qu'en plus, t'es là, t'es pas en mission. Ça arrive pas tout le
temps. C'est plus difficile.
Ça t'arrive souvent, mais pas tout le temps.
C'est plus difficile. C'est vraiment plus difficile. Et l'exemple que je vais prendre, c'est ce début de Tour Divide où pour le coup, cette notion de mission, elle a été vraiment plus présente que jamais. Le début du Tour Divide 2022, c'était énormément de neige dès le premier jour. Il faut savoir que quasiment tous les cols qu'on a passé sur le Tour Divide cette année était enneigé depuis le Canada jusqu'au Wyoming. Donc c'est tous les cols du Canada, tous les cols du Montana et après jusqu'à Union Pass dans le Wyoming, donc la moitié du Wyoming. Donc c'est énormément d'heures vraiment passées à marcher dans la neige. Des cols qui, enfin des randos dans la neige qui pouvaient prendre entre peut-être 45 minutes pour les plus courtes et jusqu'à 2h30 pour les plus longues. Et ça plusieurs fois par jour. Honnêtement, j'étais vraiment tellement galvanisé par l'idée que cette année c'était mon année, que cette année j'allais enfin mettre mon nom au palmarès de cette course-là, que j'avais absolument aucune émotion quand je faisais ça. J'en ressentais pas la réelle difficulté parce que c'était juste sur mon chemin. Il fallait que je passe ces choses-là et plus je les passais rapidement et plus je créais une distance entre moi et les autres qui me permettait d'aller vers ce but ultime que je poursuivais depuis 8 ans, de gagner le Tour Divide. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, je pense que le début du Tour Divide, même si en soi il était extrêmement compliqué avec ses conditions météo qui étaient assez froides, qui étaient assez pluvieuses, ces longues heures passées à marcher dans la neige, j'en ai pas réellement ressenti la difficulté parce que c'était le début de ma mission et c'était les moments les plus déterminants pour moi parce que c'était les moments où je créais le trou qui allait me permettre après de gérer et de continuer à avancer sereinement vers ma victoire. Et le vent après dans le Wyoming et le Colorado était pour moi beaucoup plus difficile à gérer. Alors certes parce que c'est un peu comme la kryptonite pour Superman, hein, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Mais en plus à ce moment-là, le trou était fait, mon objectif était vraiment en vue et j'avais beaucoup moins ce sens de cette urgence plutôt de la mission, de se dire les gens sont à mes trousses, ils convoitent le même objectif que moi et je dois m'en emparer avant eux et donc je dois créer cet espace entre eux et moi et à partir du moment où dans le Colorado, dans le Wyoming, cet espace était créé, c'était beaucoup plus difficile pour moi mentalement de me mobiliser parce que je savais que ça allait être très 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 compliqué pour eux, voire impossible de me rattraper. Et donc là j'étais plus vraiment dans une avancée où il y avait beaucoup moins cette urgence là. En effet, que je ne participe pas à toutes les courses avec l'ambition de les gagner. Après ce Tour Divide, j'ai participé à la Rhino Run en Afrique du Sud et en Namibie, une course qui était peut-être pas la plus compliquée du monde, mais qui a présenté à des moments des difficultés extrêmes, notamment en Namibie où il y a eu des températures supérieures à 40 degrés avec des impossibilités de se ravitailler sur des centaines de kilomètres et aussi des pistes qui sont des pistes très sablonneuses qui sont parcouru à longueur d'année par des 4x4 et donc qui se retrouve avec de la tôle ondulée. Hein. Donc on est sur des, et en plus pour le coup, moi j'ai vraiment, ça s'est marqué dans mon esprit comme un fer rouge, le souvenir d'une route comme ça qui était à la fois très sablonneuse, très très compliquée à appréhender parce que les ondulations qui faisait la route, et en plus ouais cette ligne droite à perte de vue mais vraiment qui disparaissait dans l'horizon et qui voilà combinée à la température extrême, à la conscience qu'il y avait absolument pas d'eau à proximité et à la réalité d'une difficulté extrême à avancer sur un revêtement aussi hostile, c'est vraiment des choses qui marquent, où on se dit mais comment on va faire pour se sortir d'une situation comme celle-ci. Alors comment on va faire, bah finalement même quand on n'est pas dans une mission d'ampleur qui est de gagner une course, et ben on est quand même chaque jour quand on fait du vélo en bikepacking, que ce soit dans un contexte de voyage ou que ce soit dans un contexte de simplement terminer un événement comme la Rennes-Noël, on se fixe quand même chaque jour des objectifs et il faut chaque jour les remplir et donc on avance.
Donc tu découpes ouais, en fait ta journée ou tes difficultés pour minimiser un petit peu, pour oublier que c'est extrême, et tu te trouves des petits objectifs plus réalisables et plus atteignables que simplement cette grande ligne droite où on part pour centaines de kilomètres sans boire, enfin sans avoir à boire.
Ouais, exactement. Je pense que c'est le plus simple. Quand j'étais sur cette Rhino Run, chaque jour, je partais du point où j'avais dormi et je me fixais. Moi, l'idée, quand j'ai participé à cette course, c'était évidemment pas de gagner. J'étais beaucoup trop fatigué suite au Tour Divide et à la Silk Road après avoir remporté ces deux courses et j'avais physiquement pas le jus et même mentalement encore moins. Mais je voulais quand même participer à cette épreuve et découvrir ces pays. Et je voulais juste faire ça de la manière la plus plaisante possible. Donc je me fixais voilà tous les matins un objectif où je me disais bon bah voilà, si j'arrive à me claquer entre 250 et 300 bornes et à dormir au chaud dans tel hôtel, je serais bien. Donc c'est comme ça, c'est ce que je faisais et c'était un peu plus comme un voyage. Sauf que dans un voyage, je me fixe pas des 250-300 bornes, je suis un peu plus raisonnable que ça. Mais s'est quand même présenté des réelles difficultés sur un événement comme la Rhino Run, et il a quand même fallu mobiliser des ressources mentales importantes.
Ça a été quoi par exemple? Parce que tu venais de gagner la Silk et le Tour Divide. D'une certaine manière, tu avais rempli ta quête. Tu voulais voyager en Namibie et sur la Rhino Run. Ça s'est avéré plus compliqué que prévu. Pourquoi tu vas au bout et à quoi tu te raccroches pour continuer? Parce que finalement, tu n'avais plus rien à gagner sur la Rhino Run.
Non, j'avais rien à gagner. Mais en même temps, c'est intéressant comme course parce que ça montre aussi les limites de mon mental, parce que j'ai pas réussi à me mobiliser suite à deux victoires, j'ai pas mentalement réussi à me mobiliser pour me battre pour une troisième victoire sur cette saison-là. Donc ça prouve aussi que quand on fait partie de l'élite de ce sport et que il en découle logiquement qu'on a des capacités de résilience bien supérieures à la moyenne. Et des capacités à mentalement se mobiliser de manière extraordinaire. on reste humain et parfois on n'arrive juste simplement pas à mobiliser ces capacités-là. Et finalement, ça tient aussi à la connaissance de ce que exigent ces épreuves-là. Et peut-être que si je les connaissais moins bien, je l'aurais appréhendé différemment. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès la première nuit, je me retrouve à un moment à pousser le vélo sur une sommet sur la fin d'un col. Il me restait pas grand chose à monter, peut-être 100 ou 200 mètres verticaux. Mais pour le coup, c'était vraiment caillouteux, vraiment pentu. Il était peut-être 3h du matin, il faisait froid. J'étais en train de pousser et là j'ai vraiment commencé à me questionner et à me dire mais j'ai l'impression que je me retrouve un peu trop souvent dans des situations comme ça et pourquoi parce que c'est certes je suis habitué, certes je souffre peut-être moins que d'autres dans des situations comme ça, mais il n'en reste qu'elles sont pas plaisantes et donc on est capable de s'infliger ce genre de choses là uniquement si le jeu en vaut la chandelle. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit que le jeu n'en valait pas la chandelle. Et peut-être que c'était une forme d'échec mentalement et une incapacité à se mobiliser. Après, la réalité est aussi que j'ai une aversion pour les choses qui ne sont pas achevées. Je n'aime pas ne pas finir ce que j'ai commencé. Et pour moi, si je suis venu, personne m'a forcé à venir en Afrique du Sud. J'ai fait une bonne douzaine d'heures d'avion pour voir ce parcours, pour voir ces pays. Et évidemment que faire du vélo c'est pas tous les jours facile, évidemment que parfois c'est même très dur, mais à partir du moment où moi je signe pour faire quelque chose, je ressens vraiment le besoin profond d'aller au bout, donc je n'envisage jamais vraiment le fait de bâcher. C'est pas quelque chose qui fait partie des options pour moi. Ça peut faire partie des options avant que le départ soit donné, où je peux me dire bon allez, j'ai vraiment pas envie d'y aller, j'y vais pas. Mais à partir du moment où j'y vais quoi. Et je pense que j'ai un peu lâché l'affaire en me disant bon moi je vais pas faire la course. Mais j'aurais pas été capable de lâcher l'affaire en me disant je vais pas finir quoi. Je vais rentrer. Ça faisait pas partie des options.
Quelle que soit la course, une veille de course, t'es plutôt détendu ou un peu tendu, un peu irritable ou quelque part entre les deux?
Je suis assez stressé. Je suis assez tendu. Je peux potentiellement être irritable, ouais. Connaissant mon caractère, c'est pas impossible. Après, je suis rarement dans des contextes où je suis à même de m'énerver, parce que je suis quand même avec d'autres coureurs qui vont participer à ces épreuves. Généralement, je m'entoure avec des gens qui sont des amis à moi, donc c'est pas. J'essaye aussi au maximum de parler d'autres choses. De pas évoquer la course, de pas évoquer le parcours, de pas évoquer la météo, de pas évoquer d'éventuelles difficultés. J'essaie vraiment d'évacuer au maximum le fait que le lendemain ça va être go quoi, ça va être le vrai truc et j'essaie de pas y penser parce que ça me stresse et parce que je pense aussi qu'il y a pas de il y a aucun j'ai aucun j'ai rien à gagner à penser à ça quoi.
Tu te focalises sur quoi justement pour les jours ou la veille de la course pour ne pas penser à ça à part t'entourer de gens cool et éviter d'en parler? T'as des petites routines, des petits protocoles, des trucs qui sont indispensables pour que tu te sentes bien, que tu ne penses pas à ce qui t'attend ?
Non, j'ai pas spécialement de routine ou de protocole. Je pense que la fois où j'ai été vraiment le plus stressé, c'était avant la Silk Road de l'année dernière, où là j'étais vraiment au maximum du stress.
Quand tu étais malade ?
Non, l'année dernière j'étais pas malade. C'était
alors en 2023, la dernière édition, ouais, d'accord. Oui, bah ça on en avait déjà parlé.
Ouais. On est en 2024, donc c'était déjà l'année dernière. Désolé.
Ça va trop vite. Et qu'est-ce qui te stressait ?
Ce qui me stressait, c'est que j'avais aucune certitude de gagner. J'étais favori.
Ouais.
J'étais logiquement favori puisque j'avais gagné les deux précédentes éditions et puisque j'avais battu la majeure partie des gens qui étaient présents sur la ligne de départ. Mais après, il y avait aussi des gens qui m'avaient battu. Il y avait des gens aussi que j'avais jamais affrontés. Mais oui, évidemment, j'étais favori par mon palmarès, par la connaissance que j'ai du Kirghizistan et de la Silk Road. Mais la vérité, c'est que je savais parfaitement qu'il y avait tout un tas de coureurs qui pouvaient me battre. Et peut-être plus que sur d'autres épreuves où j'arrivais rationnellement à me dire par exemple sur le Tour Divide en 2022, j'étais assez stressé parce que il faut comprendre que le Tour Divide c'était le gros objectif de ma carrière. Il faut aussi comprendre que c'est quelque chose qui mobilise énormément de temps, d'énergie et d'argent. C'est pas comme si on pouvait de manière totalement anodine aller aux États-Unis comme ça tous les ans et que ça coûtait rien et que donc à chaque fois c'est un gros investissement et il faut quand même que ça compte quoi, make it count comme il dirait aux États-Unis. Donc les enjeux sont réels, mais en regardant les gens qui étaient alignés avec moi au départ, je me disais voilà, logiquement, j'ai une petite avance et si je fais ce que je sais faire, je devrais pouvoir gagner. L'année dernière sur la Silk Road, j'arrivais pas à me dire ça, quoi. J'arrivais pas à me dire ça. Je me disais ouais, Yacoub Sliakhan a déjà gagné ici. Il est redoutable. Il connaît bien le pays, il connaît bien la course. J'avais aussi Justin que certes j'avais déjà battu deux fois dans d'autres contextes, mais qui est en progression constante et que j'avais pas affronté depuis longtemps. Donc je restais certes sur deux places où j'étais devant lui, mais qui me semblaient pas forcément pertinentes au vu des progrès qu'il avait fait. J'étais aussi face à Angus Young qui venait de remporter la Highland Trail 550 et qui, quand on connaît un peu, est un athlète absolument exceptionnel. Il y a Manu aussi qui était présent et qui, pareil, lui est en progression constante et qui a prouvé qu'il était. Et puis il y avait Jochen Böhringer aussi qui m'avait déjà battu sur la Hope et que j'avais pas rencontré depuis, donc j'avais pas de référence face à lui. La seule fois où on s'était affronté, il m'avait battu. Donc j'avais vraiment beaucoup de doutes et j'arrivais pas à me rationaliser en me disant oui voilà, si je fais ci ça ça et ça, bah normalement je devrais gagner. J'arrivais pas à me dire ça, donc j'étais vraiment dans une incertitude la plus totale et aussi l'enjeu était énorme parce que c'était mon objectif de la saison. J'arrivais dans les meilleures conditions, j'avais pas d'excuses, j'étais pas fatigué par une course précédente. J'avais simplement fait la Bright Midnight à laquelle tu étais présent en juillet, mais de laquelle j'avais évidemment largement récupéré depuis. Donc normalement, voilà, j'étais sur mon terrain pour défendre ma couronne dans les meilleures conditions possibles. Absolument aucune excuse de ne pas gagner, à part de juste ne pas être le meilleur. Et donc cette possibilité qui était devant moi d'échouer et donc d'admettre que sur cette course-là, du moins, je n'avais pas été le meilleur. Et ça, c'était une crainte vraiment horrible. Vraiment horrible.
Et ça t'a emmené jusqu'au kilomètre 70 où t'es tombé, t'as cassé ta patte de dérailleur.
Je sais même pas si c'était kilomètre 70. À mon avis, c'était beaucoup moins que ça. Je pense que c'était peut-être kilomètre, je sais pas, 40 ou un truc comme ça, quoi.
Mais n'empêche que t'as eu un incident qui t'a catalysé vers l'avant et qui t'a recentré sur un petit peu finalement, qui t'a recentré sur ce que tu devais faire.
Je sais pas si
tu t'as remis dans ton mode mission.
Ça m'a recentré. Je pense pas que ça m'a mis en mode mission. J'étais déjà en mode mission. Je pense que ça m'a enlevé de la pression en tout cas. Je me suis enlevé de la pression. Je me suis dit. Mais de manière justifiée, pour le coup, je me suis pas menti à moi-même. Hein. Je me suis dit, bah franchement, après cette chute-là, parce que c'était quand même une grosse chute. Après cette chute-là, qu'est-ce que je peux attendre? Si je gagne pas maintenant, ce sera pas la fin du monde, parce que j'ai traversé des circonstances qui font que je pense qu'il y a pas mal de mecs qui auraient abandonné. Moi, j'ai décidé de continuer. J'ai réussi à surmonter ça. Ça n'a pas été simple du tout. Faut comprendre qu'une chute comme ça, c'est même si ça a pas forcément des séquelles sur le long terme, sur le court terme, il y a un vrai choc pour l'organisme que j'ai vraiment ressenti sur ces premières 24 heures où j'étais pas moi-même. J'avais pas du tout les bonnes sensations. Je me sentais mal, je me sentais faible, je me sentais fatigué, et évidemment que aussi mentalement j'étais au fond du seau, quoi. Donc réussir à surmonter ça après, probablement que ça m'a envoyé de la pression sur les deux premiers jours, et après ça m'a galvanisé. Je me suis dit, j'ai pas surmonté ça pour pas gagner, quoi. Maintenant que j'ai évacué ce truc-là, la seule issue, c'est la victoire. Après, c'est peut-être des choses qu'on se dit a posteriori, hein. Évidemment que l'histoire est belle a posteriori, parce que la victoire était au bout, et donc c'est forcément plus facile de dire ça après, mais même, pour les gens qui n'ont pas vu le film que j'ai fait sur la course, je le dis pendant la course, voilà, je ne pense qu'à la victoire. Je suis incapable d'envisager autre chose que la victoire.
Et justement, après ta chute et la casse de ta patte, la casse de ton téléphone, quelques séquelles physiques, qu'est-ce qui se passe là-haut? Tu te dis que bah, ça va être plus compliqué que prévu. À quoi tu te raccroches pour continuer? Sans trop lâcher, et à quoi tu te raccroches justement, même quand tu as été dans le dur, et sur quoi tu te concentres?
Sur le coup, je me dis que c'est la cata. Je me dis vraiment que c'est la cata. Je me dis, mais comment je vais faire? Déjà, j'ai plus de joker, c'est-à-dire que si je casse une patte de derrière, ce qui est quand même pas forcément compliqué à faire sur une course comme la Silk Road, si je casse une patte de derrière, bah voilà, il m'en reste plus de rechange, et c'est comme si tu partais sans, quoi. Je veux dire, si tu la casses au kilomètre 30, voilà, t'as pas de joker. Je me dis aussi que sans téléphone, vraiment, je me mets des bâtons dans les roues. Je veux dire, tout le monde a son téléphone, moi je l'ai pas. Et je me dis, voilà, en fait, quand je prends le départ de cette course-là, ce que j'ai dans ma tête, c'est que j'ai zéro droit à l'erreur, que j'ai pas de marge de manœuvre, parce que il y a trop de mecs forts qui sont là sur la ligne, et que si j'ai la moindre merde, ce sera tant pis pour ma gueule, parce que j'arriverai pas à rattraper ça, quoi. Et donc, je suis à ce moment-là, c'est vraiment la cata, quoi. Je repars, je suis mentalement détruit. Mais toujours est-il que bah, j'arrive à pédaler. J'arrive à pédaler, je pédale comme je peux. Évidemment qu'au début, bah, je récupère pas mal de monde, quoi, de monde qui sont mid-pack, parce que même en étant pas à 100% de mes capacités, je reste plus fort que les gens qui sont top 50 ou top 100, quoi. Il y avait probablement 100 personnes devant moi, donc évidemment que je suis plus fort qu'eux et que je les rattrape. Et à mesure que je rattrape comme ça, je roule, j'arrive à rouler, je me rends compte que, bon, bah ouais, certes, j'ai plus de téléphone, mais bon, j'ai toujours mon GPS, mon vélo fonctionne, les vitesses passent, les freins fonctionnent, donc voilà, le vélo, en tout cas, c'est un problème qui est évacué, il a aucun problème en lui-même, les jambes tournent suffisamment pour que je rattrape des gens, et puis, bah, au début, je rattrape des gens que je connais pas, parce que on est sur des positions entre la position 100 et la position 20. Et puis après, bah, je commence à rattraper des gens que je connais, quoi. Je commence à je rattrape Nathalie, je rattrape James. Je commence à arriver sur des positions où je me dis, ok, je vais naviguer sur des positions qui sont un peu plus conformes à mon standing. Et puis après, quand je reprends Angus Young qui a des problèmes de digestif, je me dis, ah tiens, lui il a des problèmes qui ont l'air plus graves que les miens déjà, qui était vraiment un prétendant à la victoire finale, il est en train de passer un sale moment, donc il y a des gens qui sont en moins bonne posture que moi. Puis après, je rattrape Max Riese, qui me dit que Josh est pas loin, et je rattrape Josh, et je rattrape Manu. Et là, je me dis, ouais, je suis pas dans mon assiette, mais les jambes, elles tournent. Et c'est comme ça que j'ai réussi à survivre à cette journée. C'est juste en rattrapant les coureurs après coureurs, en faisant cette remontada. Jusqu'à rattraper Steven, faire un bout de route avec Steven. Et il faut voir aussi que le checkpoint 1 de la Silk Road de cette année-là était un cul-de-sac. Après, on faisait demi-tour. Ce qui fait que tous les mecs qui étaient devant moi, je les ai vus passer. J'ai vu passer Seb Breuer, derrière j'ai vu passer Adrien Difti, Jochen Böhringer, Yacoub, Sliakan, tout ça. Et j'arrive au checkpoint et je sais qui est devant moi. Et je sais qu'ils sont pas si loin que ça devant moi, tu vois. Je me dis, allez, je fais des écarts. Quand je croise Seb Breuer, je fais un écart. Et puis je crois qu'au final il y a peut-être une heure. Je suis une heure derrière cette broyeur. Rien n'est joué, rien n'est perdu, quoi. J'ai limité la casse au maximum. Et après c'est ma course, quoi. J'ai juste à passer cette nuit-là. Je passe cette nuit, je la passe très difficilement parce que encore une fois je suis ébranlé, je suis pas du tout moi-même. Et je me retrouve à avoir quand même une furieuse envie de dormir, ce qui me ressemble pas du tout sur une première nuit où normalement j'ai beaucoup d'adrénaline et j'ai pas du tout sommeil. Et c'est comme ça que j'arrive à surmonter cette première nuit. Et après c'est parti. Et je me dis, ok, j'ai plus de téléphone, certes, j'ai plus de patte derrière, certes, mais voilà, j'ai surmonté ça. Je suis à ce moment-là, je sais pas trop à quelle place je suis parce que j'ai pas de téléphone, mais je sais que je suis dans le top 3 et c'est tout ce que j'ai à faire. Et après voilà, c'est ma course, c'est le Kyrgyzstan, c'est la Silk Road et je gère.
Est-ce que t'étais pas finalement un petit peu en dehors de ta zone de confort là, finalement?
Oui et non. Honnêtement, en dehors de ma zone de confort, je pense que tout le monde est en dehors de sa zone de confort à partir du moment où tu n'as plus ton téléphone. Déjà, le matin, tu peux pas te mettre un réveil. Donc, il faut trouver les stratégies adéquates pour pas trop dormir. Tu peux aussi pas regarder le tracker, donc tu peux pas non plus élaborer de stratégie par rapport à ce que peuvent faire les autres. Tu dois être en fait en permanence au max, quoi, à bloc. Et après, il y a aussi l'absence de communication avec le monde extérieur. Il y a l'absence pour moi de possibilité de communiquer avec Fanny, ma compagne. Ça, c'est très très dur. Honnêtement, c'est très très dur. Parce que ce soit dans les moments où ça va ou dans les moments où ça va pas, être capable de communiquer avec la personne qu'on aime, c'est quand même quelque chose qui apporte énormément. Et en être privé, c'est pas évident à gérer. Donc, en ce sens-là, oui, j'étais en dehors de ma zone de confort. Mais après, j'étais dans ma zone de confort parce que j'étais au Kirghizistan, j'étais sur la Silk Road Mountain Race, et j'étais sur une course que j'avais déjà gagnée deux fois. J'étais dans des conditions qui étaient bien meilleures que l'année d'avant, puisque l'année d'avant, j'avais abordé la course en étant malade. J'étais aussi avec le matériel adéquat, puisque j'avais un VTT tout suspendu qui me permettait de gommer au maximum les plus grosses difficultés de la route. Donc, et puis j'étais dans ma zone de confort, dans le sens aussi où, même si j'étais pas premier, j'étais en chasse derrière Justin, qui, je le savais, était fatigué du Tour Divide, qui ne m'avait jamais battu, qui était sur sa première Silk Road. Et alors, peut-être que je me berçais d'illusions en me disant que j'étais plus fort que lui dans ce contexte-là, mais en tout cas, j'étais confiant. J'étais confiant et j'étais aussi content d'avoir... d'avoir Yacoub derrière moi parce que j'avais pas de référence par rapport à Yacoub, parce que je savais que Yacoub lui connaissait la course, connaissait le pays, était aussi particulièrement entraîné, particulièrement déterminé. Donc j'étais dans ma zone de confort dans le sens où celui qui était devant moi, ça ne me dérangeait pas qu'il soit devant moi, et celui qui me pourchassait, je parvenait à garder à une distance à peu près stable.
Est-ce que tu as conscience de l'emprise psychologique que tu as sur les autres coureurs ?
Absolument pas.
Que par exemple, que Justina sait qu'il a Sofiane à ses trousses, ou d'autres coureurs, au départ d'une course, se retrouver à tes côtés. Est-ce que tu as conscience de ça ?
Non, absolument pas. J'ai pas du tout l'impression de faire peur. J'ai pas du tout l'impression que quand j'arrive sur un départ de course, les autres me regardent en se disant comment on va faire pour le battre, lui, ça va être compliqué. J'ai vraiment pas du tout cette impression-là, quoi. Ce serait probablement ce qui se passe, hein. C'est probablement ce qui se passe dans la tête de mes adversaires, mais j'arrive pas sur une course en me disant que je suis en épouvantail et que je dois créer du stress et apparaître comme un problème insoluble ou en tout cas difficilement soluble.
À quelques jours de l'Atlas que tu as gagné brillamment, comment tu te sens là ? Ils partent sans toi.
Comment je me sens ? Je me sens... J'ai pas l'impression de rater quelque chose, à vrai dire. C'est une course que je suis content d'avoir gagnée pour ma première participation, parce que je pense pas que ce soit une course que j'ai particulièrement aimée. Alors, pas pour en dire du mal, hein, je pense que c'est une belle course, mais c'est une course où les nuits sont très longues, et c'est une course où certes les paysages sont impressionnants, mais ils sont pas très variés non plus. Ça reste quand même du désert, ça reste quand même du caillou, de temps en temps il y a une oasis, mais c'est assez monolithique dans mon souvenir en tout cas, hein. Après c'est peut-être des souvenirs qui sont fragmentaires, c'est pas la Silk Road pour moi. La Silk Road, à chaque fois que j'y suis, je me mets des claques en me disant, mais c'est pas possible, j'arrive pas à croire à quel point c'est beau. Je dis pas que l'Atlas c'est pas beau, mais pour moi c'est moins beau, c'est moins impressionnant. C'est des endroits qui m'émeuvent moins, et donc je suis moins attiré par l'idée d'y retourner. Je suis plus traumatisé par les 48 heures de nuit que j'ai fait, puisque j'ai fini la course en 96 heures. Il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit, et j'ai roulé sans discontinuer quasiment, en dormant peut-être en tout 2 heures. Donc mathématiquement, j'ai roulé 46 heures de nuit. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est ce qui était peut-être nécessaire à ce moment-là pour gagner, donc je ne regrette pas de l'avoir fait, mais c'est pas des choses que j'ai envie de recommencer. J'ai pas envie, si je retourne dans l'Atlas, j'irai dans l'Atlas pour tout voir, et pas pour voir juste la moitié.
Je te l'ai dit tout à l'heure, t'as rempli ta quête, hein, et t'en as parlé un petit peu dernièrement sur les réseaux sociaux. La motivation, ça en est où?
C'est doucement en train de s'éteindre.
La motivation ou quoi?
La motivation, ou quoi, ouais, qui la motivation, est en train de s'éteindre.
Parce que bah ouais, t'as tout gagné, donc maintenant quoi? T'as ton objectif de carrière, il est gagné. La Silk Road trois fois, donc maintenant c'est quoi ton avenir? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te donne envie de te mobiliser encore? Qu'est-ce que tu cherches? Et où est-ce que tu pourrais aller faire une quête, une belle quête maintenant?
C'est
il y a un côté Zelda, hein, j'assume.
Pas de problème. C'est une bonne question. Et la réponse n'est pas simple parce que je ne le peux que constater que bah voilà, par exemple, j'ai pas envie d'aller à l'Atlas là, alors qu'il y a tout le monde. Il y a que Robin qui n'y va pas, mais sinon les anciens vainqueurs sont là. Marin sera là, Justin, Ulrich, Adrien et Steven sont en paire, donc c'est un peu différent, mais Josh sera là aussi, enfin ça va vraiment être Mathia sera là aussi, j'oubliais Mathia. Qui fait quand même partie des grands grands prétendants à la victoire finale. Donc là, ça va être festival, quoi. Ça va être feu d'artifice, hein. Mais je vais regarder ça sereinement en me disant oui, bon bah voilà, ils vont faire leur truc, ils vont en chier. Et je sais pas si j'ai particulièrement envie d'être avec eux parce que je sais ce que ça nécessite. Et je crois que là, en ce moment, je suis pas dans cet état d'esprit-là, donc je suis assez serein par rapport à ça, ce qui signifie bien aussi que j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose spécialement à prouver. Mais la réalité aussi, c'est que j'aime ce sport. J'aime ces sensations-là, quoi. C'est ce que j'expliquais dans un post Instagram récemment, c'est que pour moi, c'est les difficultés qu'on relève quand on est sur une course comme la Silk Road Mountain Race, c'est les états dans lesquels on se retrouve, de privation de sommeil, de fatigue extrême ou quoi. Je les associe pas forcément à des mauvais souvenirs. Pour moi, c'est un souvenir global, cette Silk Road Mountain Race, de la construction d'une victoire. Et parfois, je repense à des moments où j'étais pas au bord de l'épuisement, parce que j'étais dans l'épuisement, parce que il était nécessaire pour moi de m'arrêter pour dormir. Et je m'arrêtais et je dormais. Et après, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, peu importe, j'avais pas regardé ma montre, je repartais. Et c'était cette notion de mission et cette pureté qui est le corollaire d'un objectif qui est le mouvement perpétuel, vers l'avant, ne jamais s'arrêter, être en permanence dans la progression vers cette ligne d'arrivée qui provoque des états qui sont des états quasiment d'euphorie où on arrive à apprécier des choses qu'on détesterait autrement. Ce qu'on fait dans la Silk Road Mountain Race, des poussages, portages qui peuvent durer 1h30, 2h, 3h, 5h, qui seraient absolument intolérables dans un contexte différent. Le fait que ce soit dans une course, le fait que ce soit pour remporter ce Graal-là, on en arrive... pratiquement à les apprécier. Donc il y a quelque chose réellement moi que j'aime dans ce sport. Donc il va falloir trouver peut-être un moyen de continuer à participer à ces événements-là parce que j'y trouve mon compte. Mais peut-être d'une manière différente. Après il va falloir aussi trouver quel challenge j'ai envie de relever. Peut-être que je serai juste attiré par des événements parce qu'ils ont lieu dans des endroits que je ne connais pas, comme je sais pas une Transbalkane, même si je suis déjà allé dans les Balkans, je les connais pas particulièrement bien, ou là comme t'as dit, comme on en parlait avant le début de l'enregistrement, je vais aller dans l'Arizona. Parce que voilà, il y a aussi des épreuves qui sont mythiques. Mais ouais, je sens bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la motivation et de à quel point elle peut avoir tendance à s'éteindre. Et en même temps, j'ai pas l'impression que ce que j'ai vécu dans la dernière saison que j'ai couru. Et les victoires que j'ai pu remporter, les endroits que j'ai pu voir, j'ai pas l'impression d'être en train de me lasser de ce sport.
Qu'est-ce que tu vas aller chercher à la Highland Trail?
Bah, j'ai envie de gagner.
À part de rouler avec les pieds mouillés.
J'ai envie de gagner parce que pour moi c'est une course mythique. Ça n'a pas le même écho qu'une Atlas ou qu'un Tour Divide ou qu'une Silk ou ce genre d'épreuve là, mais dans mon imaginaire à moi et dans l'imaginaire d'une certaine frange de la communauté de bikepacking, il y a un réel prestige à accrocher la Highland Trail à son tableau de chasse.
Et tout à l'heure, quand tu me disais « j'hésite à venir sur Traca Adventure », donc le 560, tranquille, c'est 500, j'y vais sans pression. Est-ce que quand tu vas arriver sur la ligne de départ et que tu vas te retrouver entouré avec probablement le gratin et l'élite du moment, est-ce que tu vas quand même pas ressentir une très légère pression ou la veille en allant chercher tes affaires ? En te disant que quand même, c'est que 500 km, oui. Mais ça va aller à la vitesse de la lumière.
Oui, alors je dis que j'ai pas de pression parce que pour moi c'est 500 km donc c'est trop court. C'est pas les distances sur lesquelles je brille. Donc
c'est devenu trop court pour toi.
Oui, c'est trop court 500 km. Ouais, vraiment on joue sur des qualités de vitesse qui sont pas mes qualités premières, même si évidemment j'en ai des qualités de vitesse, mais j'en ai peut-être moins, voire sûrement moins que quelqu'un comme Mathia, même si je pense que Mathia restera sur la distance inférieure, le 60, ouais. Mais oui, moi mes qualités sont des qualités de mental déjà, de résilience, des qualités de gestion, de privation et de gestion du sommeil. C'est pour ça que j'ai réussi à remporter trois fois la Silk Road. Après voilà, je vais pas être nul nul sur un truc de 560 bornes. Mais je pense que j'aurais moins de pression parce que c'est pas ma distance. Après, j'en aurais quand même parce que je sais aussi que dès que je m'aligne sur une course, il va y avoir toute une partie des gens qui pensent que je vais gagner. Même si la distance est courte. Parce que voilà, c'est moi. Et qu'il y a aussi toute une partie des gens qui suivent le bikepacking, qui sont peut-être pas aussi pointus et qui se rendent peut-être pas compte de la segmentation qui peut exister entre des courses qui vont se dérouler sur environ 24 heures et des courses qui vont se dérouler sur 8 jours j'imagine aussi qu'il y a des gens qui m'idéalisent, qui m'imaginent comme une sorte de héros et qui pensent que voilà, si j'arrive quelque part, bah oui, Sofiane, il va gagner. Donc je sais que ces gens-là existent et donc je sais que même si moi je vais aborder la chose avec moins de pression en me disant attendez, c'est 500 bornes, c'est pas ma spécialité, il y a quand même des gens qui vont dire c'est pas ta spécialité, mais bon, quand même, t'es fort. Donc t'inquiète, tu vas gagner, tu vois. Donc voilà, j'en aurai un petit peu.
Et toi, justement, tu y vas pour faire quoi ? Ça, sur un 500 km qui ne correspond pas à tes qualités premières, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas chercher ? Comment tu vas faire pour t'en sortir correctement ?
Bah, moi, je veux pas, honnêtement.
En sachant que t'es pas dans ton jardin.
J'ai pas peur de mal faire, quoi. Je pense que si au minimum, je vais m'en sortir correctement, quand même. Je veux dire, même sur une Badlands 2021 où j'arrive. Ouais. Explosé du Kirghizistan. J'ai vraiment pas de sas de récupération entre le Kirghizistan et Badlands en 2021. Je fais quatrième, donc ça veut bien dire que j'ai de toute façon des qualités intrinsèques qui font que je vais pas m'en retrouver cinquantième. Enfin, je sais pas combien il y a d'inscrits, tu vois, mais j'espère bien valoir un top 5, quoi. Pourquoi y aller? Bonne question. Ouais, bah parce que je sais pas. Je crois que j'aime bien faire du vélo. Je crois que j'aime bien aussi l'idée d'arriver sur un événement où j'ai moins de pression. Ouais, ça me fait bizarre aussi de pas commencer la saison tôt. Tu vois, j'ai l'impression que la saison s'est terminée octobre, à peu près mi-octobre avec The Goats, là, enfin début octobre même avec The Goats, et que là l'intersaison va être finalement relativement long, alors que d'habitude il est assez court, donc peut-être que j'ai juste besoin de me dire allez, qu'à un moment je vais quand même faire un peu de vélo et de me projeter sur un truc comme ça.
Il y a deux, trois ans, je me souviens plus précisément, quand tu t'étais abîmé le genou, tu m'avais expliqué que après ça, tu avais vraiment fait très très attention à l'alimentation. Et là, justement, avec cette baisse de motivation, avec ta nouvelle vie dans le sud-ouest et les travaux de la maison, est-ce que tu as la même intensité à garder ta ligne, ou est-ce qu'au contraire c'est un peu plus difficile qu'avant?
Alors j'ai pas de difficulté à garder la ligne parce que même si je roule pas beaucoup, la vie à la campagne c'est physique quand même, surtout quand on rénove une maison, que ce soit manipuler un marteau burineur pendant quelques heures ou faire des allers-retours à la déchetterie en vélo cargo ou faire de la tronçonneuse à ranger le bois, tout ça. Enfin, j'ai des besoins caloriques qui sont similaires à ceux que j'aurais si je m'entraînais comme je devrais le faire. Après, je pense que j'ai pas eu la même discipline aussi parce que j'ai traversé une période peut-être un peu moins joviale, sans non plus sombrer dans la dépression. Je tiens à rassurer tout le monde, je vais bien, mais euh, mais je à la fin de la saison et aussi en me retrouvant ici dans le sud-ouest pour l'instant tout seul parce que Fanny travaille encore à Paris en me retrouvant dans une solitude qui est différente de ma solitude habituelle qui est généralement liée au bikepacking donc là une solitude sédentaire j'ai un peu plus fait le bilan un peu plus je suis un peu plus regardé en moi-même pour essayer d'interroger ouais ma motivation ou justement l'absence de motivation ou essayer d'interroger aussi ce qu'avait pu m'apporter ces années de succès ces successions de victoires et ouais, dans une période comme ça, qui est une période peut-être un peu plus réflexive et solitaire, loin de Fanny, qui bah, d'ailleurs permis de me rendre compte à quel point elle était primordiale à mon équilibre. Parce que je pense aussi que c'est son absence qui a fait que je me suis retrouvé à être parfois dans des spirales pas forcément négatives mais peut-être un peu trop introspectives parce que j'avais pas sa présence pas seulement rassurante mais moi ouais, c'est un peu mon rock quoi. Et donc, je pense que comme n'importe qui, quand on est un peu dans un flottement comme ça, dans des limbes où on n'arrive pas forcément à se fixer sur un objectif, alors en l'occurrence, pour ma part, un objectif sportif et tout ça. Oui, bah oui, c'est le mois de décembre, on se fait offrir des chocolats et puis on mange la moitié de la boîte. Enfin, peut-être pas la moitié, parce que ça fait beaucoup. Mais d'habitude, j'en mange un ou deux. Là, j'en mangeais quatre ou cinq. Je faisais pas spécialement attention à mon alimentation du tout pendant les mois derniers. Non, 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 j'étais vraiment plus dans une phase, ouais, réflexive, introspective. Une solitude qui était peut-être souhaitée à la base, mais finalement subie et probablement pas ce dont j'avais besoin.
Bah, puis c'est aussi une période de transition. Tu déménages, tu vas dans le sud-ouest, tu retapes une maison. On peut pas être partout à un moment donné. Tu peux pas être athlète et maçon.
Ouais, et puis je veux dire que c'est dans le sud-ouest, on a eu la même météo que sur le reste de la France, c'est-à-dire que à partir de la mi-octobre, il s'est mis à pleuvoir pendant un mois et demi, et après il a fait moche et je pense que ça a été facile pour personne en vrai. Hein.
Je pense qu'on va s'arrêter là.
Eh ben écoute, ouais, il est 20h20.
C'est l'heure d'aller manger. Il est 20h20, c'est l'heure de la soupe, hein, parce que moi aussi j'habite à la campagne, donc on va faire chauffer la soupe, mettre les croutons et le fromage, et puis on va aller regarder des chiffres et des lettres, et puis voilà. Oui. Ça fait un peu cliché quand même, hein, sur la vie à la campagne, c'est pas exactement ça. Donc,
non, c'est pas exactement ça. Écoute, moi, je regarde vachement Arte.tv, et je recommande aux gens de regarder Arte.tv parce qu'ils ont des séries documentaires qui sont absolument brillante ouais. Et fascinante, et je vais me permettre d'en conseiller deux. La première, c'est sur les origines de l'antisémitisme, de l'Antiquité à nos jours, ouais. En quatre parties. C'est absolument ouais. Fascinant. Et la deuxième, ouais. C'est en trois parties, mafia et banque, des années 20 à nos jours. Ouais. Et ça aussi, c'est absolument fascinant. Et
C'est très très il y a plein de trucs, tu vois, dans le même genre. Sur France Inter, il y a une série sur Marseille et sur le trafic d'héroïne à Marseille, et on se rend compte que c'est absolument pas un truc de notre époque, que c'est absolument pas contemporain, et qu'en fait ça remonte aux années 20, que évidemment Marseille a toujours été une plaque tournante avec sa position ouais. favorisée, et c'est super 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 intéressant, et c'est absolument pas ce qu'on imagine. Et quant à l'antisémitisme, bah, évidemment, je ne peux que appuyer là-dessus.
Oui, regardez vraiment cette série, parce que ouais. L'antisémitisme est plus que jamais d'actualité, il faut plus que jamais le combattre. Et je me permets un troisième conseil, toujours sur Arte.tv, sur le capitalisme américain. Depuis la fin du 19e siècle et les Carnegie, Rockefeller et JP Morgan jusqu'à nos jours. Et je terminerai ce podcast avec un chiffre que j'ai trouvé absolument sidérant, qui est que dans les 40 dernières années, la richesse moyenne des Américains a augmenté de 20% et la richesse moyenne des 0,1% d'Américains les plus riches a augmenté de 6000%.